Certains y entrent à pas de loup, tout doucement, presque sur la pointe des pieds, curieux mais prudents. D'autres s'y jettent effrontément à corps perdu, les yeux clos comme un funambule sans filet.
Le monde est à nous. Alice Milot, Cerise Marichaud.
Les premiers pas dans la sexualité, on en parle ensemble aujourd'hui dans Le Monde est à nous. Bonjour à tous, bonjour Cerise.
Salut Alice.
Tout l'été, chaque dimanche, deux jeunes entre 15 et 25 ans nous embarquent dans leur réalité, leur quotidien et leur intimité pour parler de tout et sans tabou. Dans des draps, dans des bois, en cachette à l'aveuglette ou sans rougir, la première fois intrigue, terrorise et fascine tout à la fois. Et ce soir, c'est Kat et Léa qui entrent dans l'arène pour nous chuchoter leurs plus tendres secrets et leurs conseils les plus avisés sur la sexualité. À 23 ans, elle est déjà une blogueuse influente, comme on dit, avec plus de 360 000 abonnés à sa chaîne YouTube, qui parle amour et sexualité. C'est notre invitée du jour, Léa Chou, bonjour.
Bonjour.
Et c'est toi, Cerise, qui a mis la main sur Léa, si j'ose dire.
Oui, Alice, j'ai déniché Léa Chou parmi une multitude de youtubeurs et nombreuses de leurs chaînes bricoles et façons Système D parlent de sexualité. Mais ce qui m'a plu direct chez toi, Léa, c'est ton humour cash, libéré, un peu rentre-dedans, mais je trouve sans vulgarité, parce que tes mises en scène sont drôles et intelligentes et tes infos sont bien documentées avec un vrai point de vue. Masturbation, contraception, consentement, orgasme, pornographie, tu parles de tout. D'ailleurs, le slogan de ta chaîne, c'est « Tant qu'à parler de tabou, parlons-en jusqu'au bout ». Dans tes vidéos, on te découvre face cam, comme on dit, blondinette avec un trait d'eyeliner, toujours ton joli accent toulousain, un style bien différent de Kat. Qu'est-ce que t'en penses, Alice ?
Ah oui, alors complètement, parce que Léa, en fait, dans quelques instants, tu vas découvrir Kat, qui est donc l'autre jeune du Monde est à nous. Elle a 19 ans, ses cheveux sont bleus, longs par endroits, rasés à d'autres. Elle porte des piercings et son surnom, c'est Kat Pellegrim. Forcément, ce qui saute aux yeux, c'est son allure un peu punkette dans un décor bourgeois, puisque Kat habite dans une petite banlieue côté des Yvelines, et c'est là que je l'ai retrouvée.
Bonjour Kat.
Bonjour. Bah vas-y,
Ouais, bah vas-y, viens, suis-moi.
Du coup, ouais, c'est ma chambre.
Mon petit monde. Du coup, voilà.
Ici, on est. C'est la maison de tes parents.
Voilà, du coup, ouais, c'est la maison où j'ai grandi avec ma famille. Et du coup, effectivement, on est dans les Yvelines. C'est un quartier pavillonnaire juste en dessous de la forêt. On est super bien placé, c'est génial. Mais c'est vrai que c'est un endroit un petit peu. Richou, où je me ressens pas, où j'ai pas trop l'impression d'avoir ma place, quoi.
C'est vrai que pour arriver jusqu'à chez toi, donc on prend la rue, il y a des grandes demeures ouais. traditionnelles, très jolies. Ouais, on ouais. sent que c'est un quartier très bourgeois ici.
Oui, mais je m'associe pas du tout à ça.
En tout cas, ici, c'est ta chambre.
Ouais, c'est ça. Du coup, bah avec mon bureau où je travaille, mon ordinateur, ma tablette, ma palette lumineuse, etc. avec tout mon bazar pour dessiner et puis bah, de l'autre côté mon lit où je passe des heures à vachir, à dessiner, à gribouiller dans mes carnets. Donc voilà.
Parce que donc tu es étudiante en art.
Ouais, voilà, du coup j'ai fait une mise à niveau en art appliqué cette année et là je suis prise à l'école d'Épinal et Salle, école supérieure d'art de Lorraine.
Donc là il y a ton carton à dessin.
Ouais. Et du coup c'est un petit parce que je travaille sur des petits formats. Mais voilà, du coup si on y va dans l'ordre chronologique, ça commence par des nus qui sont ici. Donc voilà, c'était des nus bah, de femmes.
Et ça, c'est quoi ?
Ça, c'est des gravures. Alors, c'était des gravures sur lino que j'ai fait. C'est des détails de corps masculin et féminin. Donc, 6 détails. Et à chaque fois, je les ai fait pour le corps masculin, pour le corps féminin. Du coup, il y a une hanche, la cambrure d'un dos, en fait, de la taille, un sexe, des fesses, des jambes repliées. Et ici, le dernier, c'est des fesses avec des pieds. En fait, moi, j'ai eu une famille qui m'a pas du tout éduquée sur la sexualité. Et du coup, j'ai un peu découvert ça toute seule. Bah, tout simplement, c'était tabou, en fait. Tabou, on parle pas du corps, on parle pas de tout ça. Moi, enfin, je sais pas si c'est eux ou si c'est moi ou si c'est les deux, mais pour moi, tout ce qui était masturbation, désir sexuel, sexualité, c'était honteux. Du coup, moi, mon éducation sexuelle, avant mes dessins, je l'ai fait par la pornographie, malheureusement. Bah oui, le porno, c'était ma seule voie d'accès, en fait, le seul accès à la sexualité. J'ai évolué là-dedans et mes dessins, c'était aussi dire, bah en fait, je prends ma liberté quant à ça et au fur et à mesure, ça me permettait d'assumer tout ça, en fait. Et moi, je me souviendrai toujours du premier premier baiser quand j'avais 15 ans et que j'étais au collège avec mon premier copain, donc Maxime. Et on est sortis ensemble. Du coup, moi, au début, j'étais un petit peu... j'étais carrément farouche. Hein. Je partais, je n'osais pas du tout rester avec lui. Moi, être avec lui toute seule, c'était impossible. C'était vraiment pas possible. Je pouvais pas lui tenir la main, l'embrasser, tout. C'était impensable. C'était vraiment mon premier copain et je savais pas du tout comment faire. Et moi, je me rappelle, du coup, c'est que 2 mois ou 3 mois après qu'on se soit mis ensemble qu'il m'a embrassée pour la première fois. C'est tard, hein, quand même, je pense, comparé à d'autres. Mais je me sentais pas du tout prête jusque-là. Et c'était extrêmement gênant parce qu'on était tous les deux allongés sur le lit. C'était la première fois que ça nous arrivait. On était tout seuls, tous les deux. Et il m'a dit, peut-être que c'est le bon moment. Enfin, le truc cliché. Et moi, j'avoue que ça m'a un petit peu dégoûtée, en fait. C'était qu'un petit piou. Ouais, pour moi, c'était pas... J'avais pas du tout aimé.
Un piou, c'est quoi? C'est un smack?
Ouais, c'est ça. Et puis après, il est rentré chez lui, et voilà. Et je me souviens pas trop, mais après, plus tard, quand on a commencé à se câliner un petit peu, il y a eu les vrais gros baisers d'amoureux. Et ça m'a dégoûtée très fort.
Avec la langue?
Ouais, voilà, avec la langue. Et pour le coup, j'aimais pas du tout. Vraiment pas. Alors je sais pas, effectivement on n'avait jamais embrassé l'un de l'autre, donc bien embrassé ou pas, j'en ai aucune idée. Mais j'ai pas aimé.
Léa Chou, tu es youtubeuse, tu as créé donc une chaîne Amour et Sexualité avec près de 2 millions de vues pour certaines vidéos, hein, comme celle sur la masturbation féminine. Quelle est ta réaction sur ce premier témoignage de Kat?
Ben, je la trouve très mignonne. Je me reconnais aussi, tout le monde découvre comme ça en fait. On connaît pas, on apprend, on tâtonne et on voit ce que ça donne. Et je sais très bien que moi, mon premier bisou, je l'ai trouvé horrible aussi. Ça a été, pour moi, c'était dégueu. C'était, voilà.
Qu'est-ce qui t'a pas plu?
Mais en fait, on est tellement stressé à vouloir savoir comment faire ce premier bisou, en fait, que tout le monde nous donne des techniques, des astuces et en fait, c'est pas du tout comme on l'imagine. Et au début, on imagine ça comme un truc de fou et finalement, voilà, c'est pas pareil, on est jeune et on découvre et du coup, on sait pas trop où on met les pieds.
Mais toi, tu donnes des techniques pour embrasser?
Non, je pense que chacun a sa technique. Je pense que c'est pas la technique qui compte, c'est le feeling, c'est... Il y a plein de choses, mais il y a pas une technique particulière pour faire des bisous, quoi.
Faut pas faire un rond spécial avec la langue?
On m'a dit ça quand j'étais petite, je l'ai fait, ça m'a pas fascinée.
Et selon toi, Léa, est-ce que embrasser, c'est déjà du sexe?
Bonne question. Non, je pense que c'est plus des petits préliminaires, on va dire. C'est plus découvrir l'autre par le biais des bisous. Et je me suis renseignée de pourquoi on s'embrassait sur la bouche. Et en fait, quand on rencontre quelqu'un, on analyse ses gènes, en fait. Et quand on l'embrasse, on échange nos gènes. Et c'est ainsi que notre corps sait si on est compatible avec la personne ou non.
C'est un indice.
Ouais.
Donc ça veut dire que ça sert à quelque chose d'embrasser.
Oui. Oui, oui. Oui, c'est pas pour rien qu'on s'embrasse sur la bouche.
C'est quoi? C'est notre empreinte biologique, alors?
Ben, je sais pas, c'est le cerveau qui... En fait, quand on rencontre quelqu'un, le cerveau, il envoie des signaux, il analyse tout, la façon de parler, la façon de s'habiller, etc. Et en fait, il y a toute une théorie qui dit que nos corps savent si on est compatible. Et les bisous nous aident à avoir plus d'indices sur la personne en face.
Bon, ben, donc ça veut dire qu'au premier baiser, on devrait déjà être capable de savoir si c'est le bon ou pas le bon, alors?
Ben, des fois, c'est ça qui arrive, c'est qu'on rencontre quelqu'un, on dit c'est le bon, etc. Et puis dès qu'on commence à passer à une partie plus intime... D'un coup, on a un blocage, on comprend pas d'où ça vient, et c'est souvent ton cerveau qui te dit, en fait, non, laisse tomber. Parce qu'il y a plus l'endorphine qui est envoyée à ton cerveau pour te dire, cette personne, c'est la bonne, et d'un coup, tu laisses tomber, t'es en mode, non, j'en veux plus, et je pars.
Et tu sais pas pourquoi, mais ton cerveau, lui, il le sait.
Ton sabre laser sous mon rayon X fait briller mes cristaux, et dans ta chambre noire, j'ai découvert ma fluorescence et le puits de lumière qui brûlait nos peaux. Tu expires dans mon éprouvette comme tu sais me garder en haleine. Et ton prix Nobel sous mon microscope ressemble à une reine qui se téléporte. Difficile de l'avouer, j'aime tout ce qui se mange. La science est une orange. Je prends le pouls de tes ongles. Je vais les promener dans les champs magnétiques où nous aimons graviter.
Rayon X de Claude Pelgag sur RFI, c'est la chanson choisie par Kat, une de nos deux jeunes invitées aujourd'hui dans Le Monde est à nous, où l'on parle des premiers pas dans la sexualité.
Bon, ça faisait très longtemps que j'avais pas parlé de sexualité, donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur toutes les formes de phallus. Oui, de bites, de kikettes, de gourdins, de ce que vous voulez, et aussi des petits minous. Souvent on demande, oui, est-ce qu'elle est grande, ça va, est-ce que si elle est petite, ça va, mais en fait il y a plein de formes différentes. Et je sais pas qu'on parle de... Hein, disons-le clairement, on fait que dire oui, si elle est moins les petites ou elle est grande, est-ce que c'est mieux qu'elle soit petite, est-ce que c'est mieux qu'elle soit grande, et pourtant, il n'y a pas que ça qui compte, il y a tellement d'autres choses à prendre en compte. Et maintenant, on va regarder ensemble les sortes de petits minous. Je sais pas comment j'ai classé ça.
Celui où rien ne dépasse, où tout se passe à l'intérieur. Celui qui n'a quasi pas de cliquetis, il est tout petit. Lui qui a le cliquetis qui fait coucou.
Chacun son petit minou, chacun son petit kiki. C'est vachement plus vexant, petit kiki, que petit minou, hein, mais voilà, c'est pour la mignonitude, hein.
Et voilà, c'est le genre de vidéo YouTube que tu postes, Léa Chou, sur ta chaîne Amour et Sexualité. Et si on a bien compris avec Cerise, en fait, tu choisis souvent les thèmes de tes vidéos, en fait, en fonction de ce que te réclament un peu tes abonnés. Alors, nous, ce qu'on voulait savoir, c'est qu'est-ce qui tracasse les jeunes aujourd'hui, en fait, en termes de sexualité?
Il y a beaucoup de choses. Le corps, énormément de complexes sur le corps, sur est-ce que je suis normale, est-ce que ça c'est normal. En fait, quand on est ado, on passe notre temps à se comparer aux autres, et du coup on se demande toujours est-ce que c'est normal si, est-ce que c'est normal ça, est-ce que moi si je suis comme ça c'est normal. Et je pense que c'est la plus grosse question qu'on me demande tous les jours, c'est est-ce que c'est normal. C'est toujours comme ça que ça commence. Sinon c'est les questions d'amour, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, et ça je peux pas y répondre. C'est compliqué à travers une caméra, mais ouais, la normalité, c'est une grosse question qu'on se pose étant adolescent.
Mais tu réponds quoi, toi, face à ça, alors?
Que la normalité n'existe pas, qu'on est tous comme on est, et que, voilà, il n'y a pas de mieux que d'autres. Faut s'aimer comme on est, et puis voilà, apprendre à faire avec comme on est.
Ça suffit à les rassurer, les jeunes?
Ben, en fait, vu qu'ils savent que, du coup, il n'y a pas vraiment de normalité, ils arrêtent de complexer un peu sur ceux qui sont, parce que logiquement, bah, ils voient des choses à travers les pornos, etc. Et je leur explique que les pornos, c'est pas du tout la vraie vie. Et que, comme je dis à chaque fois, qui fait rire tout le monde, c'est chaque poubelle a son couvercle. Je leur dis, vous trouverez quelqu'un qui vous aime comme vous êtes. Et si une personne ne vous aime pas comme vous êtes, c'est que c'est pas la bonne. Donc, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas et prenez votre temps.
Et on se demandait aussi avec Alice, Léa, est-ce que les questions que te posent les garçons sont différentes des filles? Et dans ce cas, quelles sont les questions qu'ils te posent le plus souvent?
Pareil, la normalité. C'est souvent, ils vont m'envoyer des questions à propos de leur anatomie, en me demandant est-ce que cette taille elle est normale? Est-ce que c'est normal si j'ai ça dessus? Est-ce que ça c'est normal? C'est toujours comme ça.
Ils posent pas de questions de sentiments?
Non.
Et les filles plus?
Ouais. Ouais, plus.
Donc c'est pas un cliché de le dire.
C'est peut-être parce que aussi les garçons ils osent moins. Après je sais qu'il y a des garçons qui me demandent des choses pour offrir des cadeaux à leurs copines ou des astuces pour reconquérir une fille, etc. Mais c'est vrai que les sentiments c'est plus les filles, j'ai l'impression qu'on se prend plus la tête. Mais je pense que c'est une question d'éducation.
Une première fois ça peut être génial, comme ça l'est beaucoup moins. Voilà, c'est pas parce que vous êtes nul ou bizarre si votre première fois se passe pas très bien. La sexualité c'est comme le vélo, c'est une chose qui s'apprend, ou comme la cuisine. Quand je prends mon expérience personnelle, j'ai mis à peu près 4 ans avant de comprendre pourquoi tout le monde parle du sexe en mode c'est cool. Parce que moi je ne voyais pas l'intérêt, j'étais en mode... C'est surcoté le sexe un peu, non? Et puis voilà, c'est une question de maturité, d'envie, enfin bref, c'est tous des facteurs qui rentrent en compte. Donc, si votre première fois ne se passe pas aussi bien que vous l'auriez espéré, ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, vous avez de la marge de manœuvre, vous avez tout le temps pour apprendre, et ne prenez pas la tête, ne vous mettez pas en plus bas que terre pour ça, c'est rien de grave.
Léa Chou, réussir sa première fois, c'est la préoccupation des jeunes que tu conseilles via tes vidéos YouTube. Quand est-ce qu'on est prêt? Comment on sait si c'est la bonne personne? Toi, qu'est-ce que tu leur réponds?
C'est marrant parce que je viens de monter une vidéo qui parle de ça aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs questions qu'on me pose. C'est l'âge, est-ce que l'âge c'est bien? Est-ce que la personne c'est bien? Est-ce que je vais être nulle? Est-ce que ça va se passer mal? Est-ce que je vais avoir mal? Est-ce que ça va changer quelque chose? C'est vraiment beaucoup de questions et c'est normal qu'on se prenne la tête puisque c'est quelque chose, comme je dis, c'est une première fois pour tout. Comme moi, j'ai mon premier saut en parachute, je me suis prise la tête autant qu'une première fois. C'est des choses qu'on ne connaît pas et c'est aller vers l'inconnu. Et je leur dis, ne vous prenez pas la tête, respirez et voilà, tant que c'est un moment partagé avec quelqu'un et que bah, ça crée des souvenirs et puis on apprend comme tout. Je pense.
Alors, il y a certains thèmes pour lesquels tu te documentes, mais pour cette question de la première fois, c'est pas vraiment une réponse qu'on trouve dans les livres. Donc là, tu fais confiance à ton fort intérieur, à ton expérience?
Je fais, ouais, confiance à mon expérience et à l'expérience de mes amis, puisque c'est des sujets, je parle de ces sujets avec beaucoup de monde, j'ai pas du tout de tabou là-dessus. Et même, il y a tout le monde qui aime en parler de façon très naturelle. Du coup, ouais, je prends un peu de tout ce qu'on me dit et je vois ce que ça donne. Je fais un mélange de tout.
Et on se demande également, est-ce que pour la première fois, à ton avis, pour la première fois et même plus tard dans nos vies, faut-il forcément être amoureux ?
Non, je pense pas. Je pense que c'est quelque chose qu'on éduque forcément aux filles. J'en parle dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est que, par exemple, ma maman m'a toujours dit, Léa, ta première fois, faut que tu le fasses avec l'amour de ta vie, nanana, alors que mon frère, elle lui a jamais dit ça. Et c'est vrai que du coup, les filles, elles se prennent 10 fois plus la tête à se dire, est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que c'est pas la bonne personne ? Alors que mon frère, bon, finalement, il est toujours avec ma belle-sœur depuis 11 ans, mais il s'est jamais posé cette question, alors que moi, je me suis mis une pression considérable pour ça, étant ado. Et en grandissant, bah, je me suis aperçue que finalement, c'est pas forcément être amoureux d'une personne, mais des fois, tu te sens bien avec une personne, et des fois, voilà, t'as envie de cette personne, et c'est pas parce que vous êtes amoureux ou non, c'est, voilà. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut, et tant qu'il y a personne qui se trouve dans l'histoire,
Et du coup, pour reprendre ce que disait Cerise, c'est-à-dire que, est-ce que quand on grandit, le sexe, il est meilleur si on est amoureux?
Moi, je pense que quand on est amoureux, c'est différent. Je suis restée 2 ans avec un garçon que j'aimais énormément. Et pour moi, ça restera les meilleurs moments que j'ai eu qu'avec quelqu'un, puisque c'est pas juste du sexe pour du sexe. C'est vraiment, il y a plus que ça derrière. T'as envie de tout partager, t'as envie de tout donner. Et tu sais très bien que la personne, tu vas la revoir. Donc, t'essayes de construire quelque chose, même au lit. Et je pense que, voilà, moi, il y en a qui disent que non. Mais moi, je fais partie de ceux qui trouvent que quand tu es amoureux d'une personne, bah, ça rend les choses un peu plus ouf, on va dire.
La coupe des poils de votre petit minou comme celle de vos cheveux ont bien évolué avec les années. Et pour le coup, le petit minou, il y a le porno qui a influencé pas mal. Quelques années en arrière, on trouvait dans les films porno des filles avec des fouves poilues. Et donc des filles avec des fouves poilues dans la vie de tous les jours, c'était toléré. Aujourd'hui, il est rare de trouver des films pornographiques avec des filles poilues. Et du coup, pour vous consommateurs de films pornographiques, il est évident qu'une fille ne doit plus avoir de poils. Le sexe sans poils n'est pas une norme, mais avec le porno, on l'oublie facilement. Et oui, je l'assume, pour écrire cette vidéo, j'ai dû regarder des films porno. Alors certains vont dire, oh, c'est trop cool d'être youtubeur. Et d'autres vont dire que c'est vraiment la merde.
Léa Chou, alors le porno, est-ce qu'il faut en regarder?
Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je pense que on peut en regarder, mais il faut pas oublier que voilà, c'est pas la même chose dans la réalité. Ma mère m'a toujours dit ça, pour le coup. On en avait parlé, je l'entendais dire à mon frère surtout. C'est pas comme dans la vraie vie, hein. C'est pas la même chose. Et même aujourd'hui, on en parle, c'est pas du tout pareil. C'est joué, puis les filles, elles sont parfaitement cadré, enfin, c'est pas pareil dans la vraie vie c'est plus random, on va dire, il n'y a pas toute une mise en scène derrière, faut pas se baser là-dessus, mais on peut en regarder si...
Mais en quoi, parce que toi tu soulignes dans certaines de tes vidéos que ça peut être un problème, en quoi c'est un problème?
C'est surtout un problème, notamment pour l'image de la femme, qui dans les certaines vidéos pornographiques est totalement soumise et mise en PLS total, hein, dans certains films, et il y a des garçons qui pensent que du coup la sexualité c'est toujours comme ça. Ils vont tomber sur des filles qui vont être d'accord avec ça, mais il y a des filles qui sont pas du tout comme ça, qui vont être vachement plus dominatrices ou qui vont pas supporter que voilà ça se passe comme ceci ou comme cela, et ça peut créer des malentendus sexuels, notamment des garçons. Moi j'ai parlé du viol conjugal, des garçons qui pensent que un peu comme dans les films, la fille tu l'attrapes par les cheveux et hop tu fais comme tu veux où tu veux, alors que dans la vraie vie ça se passe pas comme ça, et qu'une fille n'est pas obligée de se plier aux 4 désirs de son copain ou de pas son copain. Tu peux pas arriver et faire comme tu veux.
Restez avec nous, Léa Chou et Kat Pellegrim continuent de nous parler sexualité. Le Monde est à nous revient juste après le flash, c'est dans 3 petites minutes.
Aux confidences de jeunesse, je vais t'en faire une de confidence. J'écoute.
Le monde est à nous. Alice Milo, Cerise Maréchaux.
Le monde
est à nous, l'émission qui chaque dimanche de l'été donne la parole aux jeunes. Et même si vous avez plus de 25 ans, vous avez bien fait de nous rejoindre. Aujourd'hui, on se dit des secrets, des confidences, celles qu'on partage quand on se sent en confiance. Et la confiance, c'est très très important quand il s'agit de faire l'amour. Toute la vie, bien sûr, mais surtout, surtout au début. Et ce soir, nous faisons ensemble nos premiers pas dans la sexualité. Grosse pression sur cette toute première fois, comme si elle allait déterminer à tout jamais le reste de notre vie sexuelle. Allez, on se détend. Chaque première fois est unique et rien n'est dramatique. Alors oui, palpiter, hésiter, fantasmer, trébucher. Mais la règle d'or, c'est surtout de ne jamais se forcer et de toujours s'écouter. Et c'est en tout cas le conseil que nous donne Kat Pellegrine. C'est une des deux jeunes du Monde est à nous aujourd'hui. Elle a 19 ans et elle est étudiante en art. Et c'est un conseil qui lui vient de sa propre expérience. Alors ouvrez bien vos oreilles et âme sensible, ne pas s'abstenir.
Du coup, ça, c'est des maquettes de carnet que j'ai fait. Donc, c'est assez récent. Je l'ai fait le mois dernier, je pense même pas. Et c'est en fait un carnet sur le thème de l'abus sexuel. Donc, en fait, c'est mon témoignage personnel que j'ai fait. Du coup, forcément, ce sont que des maquettes, c'est des extraits de moments que j'ai pu vivre avec un de mes copains, mon premier copain. Et au fur et à mesure, du coup, forcément, on se dénude un peu plus, on va un peu plus loin, etc. Et c'est là où on était tous les deux partagés avec le désir de qu'il se passe quelque chose. Et d'un côté, non, j'ai pas envie, je suis pas prêt. Mais je pense qu'on s'est pas trop écouté. Et du coup, c'est passé plein de choses. Et moi, je me rappellerai toujours... c'était encore en troisième, c'était en été troisième, où une fois, on était dans ma chambre. Et moi, j'avais plus du tout envie. On n'était pas nus ni quoi que ce soit, mais c'était des caresses qui étaient peut-être un petit peu poussées et que moi j'avais pas envie. Et à un moment donné, il me dit non mais moi j'ai mal, il faut que tu me termines et que tu me fasses jouir. Et moi je te dis non, ça me fait super peur. J'avais pas du tout envie. J'étais tétanisée et en fait il m'a forcé.
Tu l'as soulagé, ouais. En fait en le caressant.
C'est ça.
Jusqu'à ce qu'il puisse jouir. En
c'est
fait.
Ça. Et sauf que je le voulais pas en fait. C'était pas moi, ça me faisait peur et je pense qu'il a pas écouté ça.
Est-ce que tu te souviens précisément de ce que t'as ressenti toi à ce moment-là?
D'être humiliée, complètement humiliée, et j'avais envie de pleurer sur le moment. Mais je lui ai pas dit parce que j'étais amoureuse, parce que voilà, pour moi c'était aussi un petit peu normal de lui faire plaisir et comme c'était que le début, je me suis pas forcément remis en cause et lui non plus. Et voilà, on était trop jeunes pour ça, je pense encore. Ça, c'était vraiment le premier truc, la première confrontation que j'ai eue à ce nom, qu'il n'a pas entendu. Et ça, et à partir de là, ça a dérapé un petit peu tout le temps, en fait, à chaque fois. Après, mon premier rapport sexuel, je l'ai eu pendant l'été. Je lui avais dit clairement, moi j'ai envie d'essayer de faire l'amour. C'est surtout moi qui l'avais au début un petit peu boosté pour essayer, parce que j'ai trop envie d'être la première de mes amis, d'avoir un truc à raconter et tout. Alors que mon corps n'était pas prêt, mais je ne l'ai pas écouté.
Mais pourquoi c'était si important d'être la première?
Pour impressionner les autres, pour épater la galerie. C'est ridicule, hein, si vous m'entendez, ne faites jamais ça. Hein, c'est... mais ouais, c'était vraiment ça. J'avais vraiment envie d'être la première des amis pour dire « Eh, moi je l'ai fait, pas vous !» et tout. J'avais envie d'être la grande. Puis j'avais envie qu'on me traite comme une adulte. Du coup, avoir un premier rapport sexuel, c'était vraiment qu'on me traite comme une adulte.
La moyenne nationale du premier rapport sexuel chez les filles, c'est 17 ans.
Ouais.
Toi, c'était 15.
C'était 15 et j'étais pas réglée.
Mais ça veut dire que t'as eu tes premiers rapports avant d'avoir tes règles ?
Oui, c'est la question qui choque tout le monde. Oui, j'ai eu mes premiers rapports avant d'avoir mes règles. Donc, ce qui prouve encore que mon corps n'était pas prêt. Hein. Ça s'est très mal passé, nos premières fois. Très, très mal. Les premières fois avec pénétration, hein, j'entends. Parce que, tout simplement, ça ne rentrait pas. je sais pas si c'était une question d'hymen ou quoi que ce soit, mais c'était impossible. J'avais beaucoup trop mal. Et moi, je me rappelle très bien qu'une fois, il m'a demandé « coupe-toi l'hymen ». Chose que je lui ai jamais dit après, c'est que je l'ai fait. Oui, je vois tes grands yeux. Oui, je l'ai fait. Du coup, c'est dans ma petite BD. Hein. Du coup, mot pour mot, je suis désolée. Moi, je lui dis, je suis désolée, j'y arrive pas. Et puis, lui qui me dit, tu peux pas te couper l'hymen. Et là, les dessins suivants, c'est une vulve avec des ciseaux et une goutte de sang. Donc oui, je l'ai fait. Face à une glace, à un miroir, j'étais assise et j'ai tiré l'hymen et j'ai coupé. Pour moi, l'hymen, c'était une petite peau qui servait à rien et qui était là, qui m'empêchait d'avoir mon rapport sexuel. Et du coup, je l'ai coupé. Je me suis pas posé plus de questions que ça, ce qui était ridicule. Hein. Et bah, l'hymen, c'est une peau qui fait pas mal. Du coup, j'ai pas eu mal sur le moment. Mais ça saignait. Du coup, après moi, pendant mon premier rapport, je sais pas si c'est à cause de ça ou autre, mais du coup, j'ai pas saigné. Et c'est passé. Mais j'avais terriblement mal. Et j'ai eu très très mal. Et pendant tous mes rapports sexuels, j'ai eu très mal. Et du coup, bon, lui, c'était toujours, ouais, maintenant, je suis chaud. Je vais avoir mal si tu me finis pas. Donc, termine-moi. À chaque fois, c'était ça. Il m'écoutait pas vraiment. Mais d'un côté, moi, je m'écoutais pas non plus. Je lui disais plus que j'avais mal. Parce que moi, j'avais toujours super envie de lui faire plaisir et c'était tellement satisfaisant au final de me dire en fait, ce que je fais, il y a une conséquence, ça lui fait plaisir. Et en fait, c'était ce que je cherchais.
Ça te suffisait en fait,
ouais.
Comme plaisir.
C'est ça, ouais, ouais, largement. Puis moi, je prenais pas du tout mon pied. Hein, j'ai jamais eu d'orgasme avec lui, mais vraiment jamais, quoi. C'était pas qu'il savait pas s'y prendre ni quoi que ce soit, c'était juste que ça ne fonctionnait pas. Franchement, moi, après cette relation, je me suis sentie salie, honteuse, souillée, etc. Vraiment humiliée. Et tout de suite après, quand j'en ai discuté un petit peu avec d'autres, on m'a tout de suite dit mais c'est un viol. Et en fait, au début j'étais d'accord parce que bon, j'étais sous le choc, etc. Puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte, même récemment là, je me suis rendu compte en fait c'est pas vraiment un viol parce que moi aussi j'avais ma part de responsabilité dans l'histoire autant que lui. Et c'est pas un viol en fait. Je vois plus ça comme un abus sexuel. Aujourd'hui, quand on reparle de notre relation, il me dit mais je m'en rendais pas du tout compte. Et aujourd'hui, il regarde ça avec ses yeux genre. Qu'est-ce que j'ai fait ? Et je fais oui, c'est bien que tu te rends compte. Mais moi aussi, hein, j'ai ma part de responsabilité. Et aujourd'hui, je m'en rends compte aussi. Mais voilà, au moins il en a conscience. Et voilà, je me dis ouais, il fera pas ça à ses autres partenaires. C'est cool. D'un côté, on avait que 15 ans, on savait pas comment ça fonctionnait. Je pense que ni lui ni moi n'avions une grande connaissance sexuelle. Donc voilà, c'est pas.
Comment t'as construit ensuite, tes relations avec les garçons après Maxime ?
Alors, après Maxime, tout de suite après, j'ai rencontré Evan, alors, et c'était beaucoup plus sain. Vraiment beaucoup plus sain. Et dès mon premier rapport sexuel avec lui, je me suis dit, waouh ! Mais comment on peut me respecter autant, alors que mon ex, même dans tous les rapports sexuels que j'ai eu avec lui, ne me respectait pas autant qu'avec Evan cette fois-ci, quoi.
Mais le respect, il était à travers quoi, en fait ?
Tous les gestes, toute la tendresse, c'était ah non, ça te fait mal, on arrête tout de suite, t'as pas envie de faire ça, ah non, bah alors le fais pas. Ouais, aussi, il m'obligeait pas à le faire jouir à chaque fois. Et ça, pour moi, c'était super important parce que Maxime, c'était à chaque fois, fallait à chaque fois que je le fasse aller jusqu'au bout.
Léa Chou, tu es notre deuxième invitée jeune aujourd'hui. Tu es blogueuse, tes vidéos sur YouTube parlent sans tabou de sexualité. Et justement, tes abonnés te racontent souvent leurs histoires personnelles, intimes, hein, comme celle que vient de nous confier Kat Pellegrim. Qu'est-ce que tu ressens à l'écoute de ce témoignage ?
Je sais pas du tout ce que je ressens. J'ai pas de mots, c'est bizarre. Je sais pas quoi dire, je suis sans mots. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte, déjà parce qu'elle était jeune et elle a beaucoup parlé de consentement. Voilà, c'est quand on est ado, on oublie de s'écouter souvent et on sait pas comment ça marche, donc on se dit l'autre il doit peut-être connaître mieux, donc on va faire comme l'autre nous dit de faire. Et puis c'est en grandissant qu'on s'aperçoit de ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Et c'est marrant qu'elle dise que on l'avait jamais autant respecté que la deuxième fois. Enfin, dans la sexualité, il y a vraiment des notions de respect qu'on peut vraiment ressentir et c'est ça qui nous met à l'aise et c'est ça qui fait qu'une première fois se passe plus ou moins bien, on va dire, je pense.
Mais ça te laisse sans voix parce que ça te met en état de choc, en fait, ce témoignage qui est quand même un peu bouleversant parce que c'est un geste assez violent quand même qu'elle se coupe l'hymen, c'est quelque chose qui te choque.
En fait, c'est surtout que ça m'a rappelé une histoire personnelle et ça m'a fait bizarre d'entendre ces mots, en fait. Voilà, c'est assez bizarre comme ressenti, c'est... Voilà. Mais c'est bien qu'elle s'en rende compte et qu'aujourd'hui, bah, elle a réussi à passer à autre chose.
Et tu veux nous la raconter, l'histoire personnelle ?
Après, c'est compliqué, ça s'est passé il n'y a pas du tout longtemps. Et voilà, ça a été... je ne sais pas comment expliquer, ça a été une personne qui m'a forcée à faire des choses que je ne voulais pas faire. Et que moi, j'ai fait, mais pas du tout comme elle, pour lui faire plaisir. Je l'ai fait parce que... Ça me saoulait tellement qu'ils me prennent la tête tout le temps à me dire vas-y, fais ci, fais ça, que voilà, quand je disais que j'avais mal, ben, on s'en foutait que j'ai mal ou pas. Enfin, de toute façon, voilà, j'avais l'impression d'être avec quelqu'un qui était limite un animal, en fait. Et au bout d'un moment, je suis partie et il me dit que c'est pas vrai, que c'est dans ma tête. Et que voilà, ces ex se sont jamais plaints, donc c'est moi le problème.
Donc ça veut dire qu'on peut être une blogueuse avisée, avoir des mots pour conseiller les autres et soi-même continuer à faire entre guillemets des erreurs.
Ouais. c'est la vie, on arrive, c'est plus facile de conseiller les autres que de se conseiller soi-même. Moi, je sais que j'ai beau parler beaucoup de sexualité, j'ai beaucoup de problèmes dans la mienne aussi, j'ai beaucoup de blocages, j'ai beaucoup de peurs, j'ai beaucoup d'appréhension, dû aussi à ma maman qui m'a toujours dit que la sexualité c'était un peu mal. Elle m'a toujours dit, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Elle m'a tellement mis de tabous, en fait, et de blocages qu'aujourd'hui j'ai encore beaucoup de blocages sur moi, et qu'il y a des choses que j'arrive pas à faire, que je veux pas faire, et que des fois je tombe sur des gens qui me, enfin, sur cette personne, c'est la première fois que ça m'est arrivé, qui me force vraiment à aller au bout de ça. Et quand on veut pas, on veut pas. On a beau forcer, ça marche pas. Hein. C'est rédhibitoire.
Tu peux nous dire à quoi il faisait référence ?
Non, c'est que, enfin, il y a des positions, moi, j'arrive pas à faire, et il me forçait à les faire. Mais moi, j'arrive pas, ça me fait mal. Et voilà, il y a des positions où des filles vont être plus à l'aise avec des positions, d'autres filles vont être plus à l'aise avec des positions. Et c'était des rapports à certains moments, alors qu'il y avait des gens pas loin. Moi, ça me gênait, lui. Bah, ils s'en foutaient, du coup c'était une pression en mode oui bah t'es dégueulasse, ça se fait pas, nanana, c'est bon, bah vas-y s'il te plaît et tout. Et au bout d'un moment bah je craquais parce que...
Pour avoir la paix ?
Ouais, c'était même pas pour lui faire plaisir, j'avais pas du tout envie de lui faire plaisir. Hein. Dans ces moments-là ça me saoulait tellement que le soir je faisais semblant d'être malade ou je faisais semblant de dormir avant qu'il arrive. Parce que je voulais pas et j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte et à partir. Ça m'a pris du temps et voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Enfin...
Et aujourd'hui, Léa, que tu es à la fois forte et fragile de cette expérience douloureuse, à ton avis, si ce que je ne souhaite pas, mais si ça se représentait, comment tu réagirais pour te protéger ?
Bah, en fait, t'as envie de te dire que c'est pas vrai. En fait, c'est pas vraiment un problème. C'est genre, bon, c'est un truc de passage ou je sais pas du tout. Mais je pense que oui, non. Aujourd'hui, je pense que ça serait différent parce que j'ai eu beaucoup de mal à faire confiance à un garçon. Enfin, ça m'a vraiment bloqué plus que sur le papier. Pour lui, il dit que c'est rien, etc. Mais il se rend pas compte du mal qu'il a pu me faire et il se rend pas compte qu'aujourd'hui j'ai toujours ce blocage-là et que ben, j'ai toujours peur maintenant de redonner de l'amour et de pouvoir aller plus loin qu'un garçon. Ça me fait beaucoup peur aujourd'hui.
On voit bien que cette question du consentement, elle est vraiment délicate. C'est une sorte de zone grise. À ton avis, Léa, comment être sûr qu'on a envie et que l'autre a envie aussi ? Quels mots faut-il dire ?
En fait, c'est compliqué. Est-ce que j'en ai envie ou est-ce que je le fais pour lui faire plaisir ? C'est deux choses compliquées. Moi aussi, je sais qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, mais j'ai envie de les faire pour faire plaisir à l'autre. Après, ça vient de mon consentement. Il y a des choses, des fois, que bah, du coup, certains garçons te forcent à faire alors que tu n'as pas envie. Mais je pense que quand tu en as envie, tu le sens. Du moment où ton corps te dit non, faut pas pousser plus. Si une personne t'aime et tient à toi, elle peut comprendre que ce soir, t'es pas envie, que ce soir, t'es fatigué, que ce soir, t'as ci ou ça, que t'as un pépin. Et voilà, et si vraiment c'est quelque chose qui dure sur le long terme, ben il faut toujours essayer d'en discuter, etc., etc. Mais je pense qu'il faut réussir à faire la part des choses et se demander si on le fait pour soi ou si on le fait pour l'autre en face.
Aïe. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto.
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos. pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza.
Despacito de Luis Fonsi dans Le Monde est à nous, c'est tout l'été sur RFI. Et aujourd'hui, on parle des premiers pas dans la sexualité avec deux jeunes femmes. Léa Chou, notre invitée, 23 ans, bloqueuse spéciale sexe. Et avec Kat Pellegrin, 19 ans, étudiante en art, qui nous a confié sa première fois et notamment son sentiment d'avoir été victime d'abus sexuels. Aujourd'hui, elle raconte tout cela dans ses dessins que vous pouvez retrouver sur son Tumblr, Kat Pellegrin. On vous met bien sûr le lien sur notre page internet. Le monde est à nous, c'est sur www.rfi.fr. Et pour Kat, le dessin, ça a été un exutoire.
Du coup, moi, ensuite, redessiner toutes ces scènes, en fait, dans mes petits carnets ou autres, ça me permet de prendre du recul et de poser les choses à plat, en fait. De dire, de partager. Et ça serait satisfaisant de me dire qu'il y a des jeunes « Ah bah, j'étais susceptible de faire ça, mais en fait, comme j'ai lu ce que t'as dit, ce que t'as fait, etc., bah, en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait pas. » Et voilà, ça serait tellement gratifiant. Et voilà, moi, je pense que j'avais besoin de ça. J'aurais eu besoin de ça plus tôt. Que je n'ai jamais eu du coup, parce qu'on parlait jamais de sexualité, je m'étais pas renseignée sur le sujet ni quoi que ce soit, et je trouve ça dommage. Du coup, j'aimerais jouer ce rôle-là pour des jeunes qui vont arriver à vivre ça aussi, en fait.
Parce que c'est quoi tes projets professionnels, alors ?
En fait, j'aimerais être illustratrice jeunesse, mais aussi, là, en ce moment, je suis en train de me rendre compte que toute la dimension préventive est en train de prendre une énorme importance chez moi, en fait, tout ce qui est prévention sur la sexualité, le genre, etc. Et du coup, moi, tous ces petits dessins, j'aimerais bien justement les rendre accessibles, les retravailler pour justement donner, par exemple, des situations aux jeunes et qu'ils puissent ensuite débattre dessus, travailler dessus, se dire que ça leur apporte quelque chose, quoi, de la matière à réfléchir, pour éviter qu'ils fassent mes conneries aussi, ça serait bien hein, qu'ils se rendent compte qu'on peut parler, ça serait cool. Et voilà, tout ça, c'est vraiment, j'ai vraiment envie de le faire pour les autres, ça. Ouais, franchement, écoutez-vous et écoutez votre corps.
Ne pas aller trop vite.
Prendre son temps, vraiment, y aller à son rythme. Et vraiment, ça passe par la communication. Et c'était une grosse erreur que j'ai faite, ne pas en parler. C'était, ouais, c'est vraiment la pire des erreurs, je pense.
Léa Chou, Kat a choisi le dessin et toi, tu as choisi la vidéo pour parler de sexualité aux jeunes. Selon toi, est-ce qu'il y a une bonne manière d'en parler ?
Non, il n'y a pas de bonne manière parce qu'il y en a qui vont préférer les personnes qui parlent de façon crue. Il y en a qui vont préférer en entendre parler de façon plus douce. Moi, j'ai décidé de toucher plus les mi-jeunes, on va dire. J'ai un public quand même assez large. J'ai entre 13 et 27 ans. J'ai un peu de tout. Enfin, même
pas plus jeune. Bah, base de curiosité vers 11 ans, par exemple.
Je pense que si, mais ils disent moins qu'ils sont très jeunes parce qu'ils n'assument pas.
Sur la jeune.
Ils n'assument pas. Voilà, j'essaye d'en parler de façon, comme vous l'avez entendu, je dis pas, je dis petit minou. Je dis des petits mots comme ça, ils le savent très bien, je vais pas arriver et leur dire ta grosse chatte, enfin des trucs comme ceci.
Non, tu n'es pas vulgaire. Hein.
Oui, j'essaye de dire des petits mots. J'essaye de pas être vulgaire pour que ça passe plus facilement et voilà, j'en parle de façon assez décomplexée, comme si c'était des petites sœurs ou des personnes de mon entourage.
Mais tes internautes ont à peu près ton âge, enfin en moyenne. Ils s'adressent à toi comme si t'étais une copine plus expérimentée. Qu'en est-il des parents ?
Alors moi, j'ai eu pas mal de messages de mamans, même en convention, qui sont venues me voir et qui m'ont remercié parce que ça les gêne. Clairement, c'est des sujets qui les gênent et ça les gêne que ce soit quelqu'un d'autre qui en parle. Mais vu que beaucoup ne sont pas capables d'en parler eux-mêmes, ils se disent tant mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, en fait. J'ai jamais eu de problème avec tes parents, quoi. C'est toujours été mais merci d'en parler parce que ça aide et au moins les enfants après ils se posent des questions et ils en parlent directement avec les parents. Souvent ils essayent d'aller un peu plus loin.
Tes vidéos leur rendent service, mais malgré tout c'est difficile pour des parents de couper complètement à l'ouverture de ce dialogue sur la sexualité avec leurs ados. Qu'est-ce que tu leur conseillerais pour être le moins maladroit possible?
Après c'est compliqué, c'est souvent attendre que l'enfant parle. Faut savoir poser des questions justes. Mais moi vraiment dans mes vidéos je les incite à aller parler aux parents. C'est pour moi quelque chose de très important que j'ai. En fait, moi, j'ai eu pas mal de soucis étant ado, et du moment où j'ai réussi à ouvrir la conversation et à me dire, mes parents, c'est pas mes ennemis, c'est mes alliés. À partir de là, ma vie a vraiment changé parce que ma mère comprenait pas ce qui m'arrivait, pourquoi j'étais si triste. Et d'un autre côté, moi, je me disais, elle va pas comprendre, elle va se foutre de moi, voilà. Et en fait, ça a été une délivrance de réussir à parler à mes parents. Même si ça a été par des lettres, par biais de sous-entendus, du moment où j'ai réussi à vraiment discuter avec mes parents et à me dire que c'était pas mes ennemis, c'est bien passé.
Est-ce que le monde est à nous ?
Le monde est à nous.
Il n'y a personne d'autre qu'à nous, à nous seuls.
Le monde est à nous. Aujourd'hui, on parle des premiers pas dans la sexualité. Et comme chaque dimanche, les dernières minutes de l'émission sont consacrées à notre expert. Alors bon, on vous explique rapidement le concept. Un des deux jeunes de l'émission interviewé rencontre un adulte de son choix, un adulte qui l'inspire ou qui l'admire pour lui demander des conseils. Et aujourd'hui, c'est Kat Pellegrin qui s'y est collée et elle a choisi le docteur Capote qui est animateur et qui intervient dans les collèges et lycées pour parler de sexe.
Du coup, en fait, comme je dessine et que j'aimerais bien travailler dans la prévention, je me demandais comment intégrer le dessin en fait dans des ateliers d'animation en fait. Est-ce que ça serait pertinent ?
J'utilise beaucoup de visuels dans mes animations quand le matériel marche, quand le matériel de projection marche. Ça c'est pas toujours le cas, mais bon, beaucoup de films, beaucoup de vidéos, mais aussi du dessin. Je trouve que c'est pas mal parce que c'est assez parlant pour les jeunes. On a d'ailleurs une BD sur la sexualité qu'on utilise. Ça fonctionne plutôt bien, ouais. Je trouve qu'il y a une dimension plus fantasmagorique derrière les dessins et on peut imaginer tout un tas de choses et on peut être, on laisse plus de place au rêve dans le dessin et ça je trouve que c'est vraiment, pour le coup c'est pas mal. Et puis ça permet de laisser aux jeunes le temps de travailler sur leur représentation, c'est-à-dire que sur un dessin, on est moins figuratif, voilà, donc du coup, ça peut aller très loin dans les débats et les discussions. Aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui lisent de BD que des bouquins, donc forcément, c'est un univers qui leur parle, quoi.
Est-ce que du coup les documents visuels, ça aide aussi à ce qu'ils gardent en mémoire l'atelier ?
Ah, écoute, ça c'est la grande question de la prévention, c'est-à-dire est-ce que ça a servi à quelque chose, est-ce qu'il en reste quelque chose ? On fait pas de fiche d'évaluation à la fin, à remplir, parce que bon, c'est en deux heures, c'est un one shot, donc c'est court, mais t'as les petits signes qui le montrent, tu vois par exemple quand je parle du consentement, il y a un grand silence, donc là tu sens qu'ils sont, ils sont présents. Quand on parle de la virginité, quand on parle de la contraception, quand on parle de... Il y a tout un tas de petits sujets comme ça où d'un seul coup, ils se taisent, ils écoutent, ils sont très présents. Ils ont bon, l'interaction aussi, hein, quand il y a beaucoup de questions, tu te rends compte, ça veut dire qu'ils sont là avec nous et qu'ils trouvent de l'intérêt dans l'animation. D'ailleurs, c'est une interaction marche souvent beaucoup plus sur sexualité que sur drogue. Sur drogue, ils se planquent un peu parce qu'ils n'ont pas envie d'être repérés comme consommateurs de bédos potentiels, ce qui est logique. Et... à la fin, ceux qui viennent nous voir, tu vois, pour des informations supplémentaires ou pour partager un vécu personnel qui des fois pas toujours facile, hein, ça peut être des violences sexuelles par exemple, malheureusement. Et puis on a un peu retour des infirmières aussi qui nous disent après votre passage, on a eu beaucoup de jeunes qui sont venus nous voir, soit simplement chercher des capotes, qui se sont réveillés en disant tiens, il faut que je me protège, soit pour avoir un peu plus d'infos sur tous les sujets qu'on a abordés dans l'animation. Donc ça, c'est des petits points un petit peu qui nous permettent de repérer que notre passage a servi à quelque chose.
Du coup, moi, dans mes dessins, je sais que j'ai des dessins assez, assez francs où je dessine réellement ce qui s'est passé, même si c'est pas forcément vulgaire. Mais du coup, est-ce que c'est trop ou pas assez pour les jeunes ? Enfin, est-ce que ça les marque ou est-ce que pas du tout ? Parce que ça répond pas du tout à la façon dont il faut s'y prendre, en fait.
Ouais, c'est une bonne question, c'est un bon casse-tête ça en fait pour le coup, parce que on est quand même dans l'éducation nationale. Enfin, moi j'interviens dans le cadre de l'éducation nationale. Donc faut faire un petit peu attention à la sensibilité du prof qui est présent, qui peut raconter tout ce qu'il a envie. Les parents d'élèves qui peuvent la ramener aussi, l'air de rien. Ah ouais, bah oui. Les sensibilités sont très larges, hein. Dans une même classe, le panel éducatif autour des gamins, il est quand même très très large. Donc il faut quand même essayer de respecter un juste milieu. Moi j'en souviens, je sais pas si tu l'as vu ce truc, ça s'appelle La Vénus. C'était un espagnol qui a fait un montage pour critiquer un petit peu à base de plutôt de collage et de dessin, pour critiquer la chirurgie esthétique, l'impact de la chirurgie esthétique sur les femmes, et qui est assez violent. Pour le coup, à un moment, avec un cutter, il coupe les seins, le sang coule, et puis, tu vois. Et en fait, moi, si tu veux, l'avantage, c'est que je suis aussi parent. Donc, mes gamins, ils me servent de cobaye, des fois. j'avais testé le film, ce film sur mon fils qui était au lycée. Et il avait vraiment une tête profondément dégoûtée, donc je me suis dit, je vais peut-être pas l'emmener, celui-là. Et du coup, je l'ai pas essayé. Je pense que certains seraient pas choqués, d'autres peuvent l'être. Donc du coup, faut être un peu dans le juste milieu, sans être non plus trop plat, hein, forcément. Mais faire attention quand même, ouais. Je pense. Faut respecter les sensibilités.
Léa Chou, réaction de la youtubeuse que tu es, qui elle aussi conseille des jeunes à longueur de journée.
C'est vrai qu'il faut se protéger. C'est ce que j'ai retenu le plus. C'est vrai qu'on sait pas ce que retiennent les jeunes, parce que j'ai beau faire des vidéos en parlant préservatif, je crois que je dois avoir un message par semaine d'une fille, surtout, qui ne s'est pas protégée et qui me demande est-ce que je suis enceinte. Alors, il y en a beaucoup de filles qui m'ont écrit étant enceinte, hein, parce que ça arrive pas qu'aux autres. Et c'est important de se protéger, et je pense que faut vraiment pas oublier d'en parler de ça. C'est dommage que ce soit autant tabou, parce que on parle de plein de choses, et ça peut quand même sauver des vies, et c'est tabou, c'est bête.
Merci beaucoup Léa Chou d'être venue depuis Toulouse hein, jusqu'à nous. On retrouve les liens vers ta chaîne YouTube sur la page Le Monde est à nous sur www.rfi.fr ainsi que sur nos réseaux sociaux. Et puis il y a aussi ton livre Dirmi qui est un guide pour ados qui vient de sortir chez Hachette. Merci également à Jérémy Besset pour la réalisation de cette émission. On se retrouve dimanche prochain même heure pour parler des jeunes qui ont bien les pieds sur terre avec Théo, 18 ans, futur éleveur de vaches, et Zoé, 19 ans, qui veut monter des projets agricoles dans des pays en développement. D'ici là, savourez votre été, n'en perdez pas une miette. Salut à tous.
À la semaine prochaine.